Docteur Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou! Et comment on peut se passionner pour des morceaux de cailloux?
Mais ce ne sont pas de simples cailloux!
Quel genre de chantier sommes-nous?
Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
Et oui, c'est les pères qui roulent, donc on est là pour le best-of aujourd'hui avec Léa, Manon, Lola. On se retrouve tout de suite après ça.
Bon, je vais aller planter quelques poires au fond du jardin.
Ça alors, qu'est-ce que c'est
comme
que ça?
Comme beaucoup d'archéologues, on a été de jeunes archéologues. On a été donc des bénévoles sur des chantiers de fouilles quand on était jeunes. Fanny Trouvé, est-ce que vous voulez nous parler un peu de cette toute première expérience qu'on a tous, hein, on pourrait tous en parler, mais...
Alors ces premières expériences, c'est vraiment... on apprend les premiers gestes, on découvre beaucoup de choses. Ça permet aussi d'avoir un aperçu de beaucoup de techniques, beaucoup de périodes. On fait des chantiers sur 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines. Donc c'est vraiment un temps au départ où on peut découvrir vraiment ce que c'est que l'archéologie auprès de professionnels qui vous encadrent, qui vous forment et qui complètent en fait tout ce que vous apprenez après à la faculté.
Voilà, donc c'est les pierres qui roulent aujourd'hui pour un best-of, hein, puisque c'est la nouvelle année. Donc on a décidé de vous proposer quelque chose d'un peu particulier, de refaire un petit tour de ce qui s'est passé ces 3 dernières années, puisque ça fait 3 ans qu'on existe. On a été dans plein de lieux différents, à la rencontre des publics, dans différents musées. Le MAN d'abord qui nous a accueillis à Saint-Germain-en-Laye. Le musée Cluny également qui a été là beaucoup pour nous, notamment pour les journées de l'archéologie. Le musée Carnavalet, le CNAM. Donc avec plein de publics qui sont venus à notre rencontre, qui nous ont posé des questions. Et donc on va commencer avec un premier petit frichti de choses qui nous permet de comprendre comment cette émission-là nous a permis de mettre en lien différentes personnes, différents doctorants, différents chercheurs de disciplines différentes et qui ont fait le lien entre chacune. Donc on va entendre plusieurs personnes. Céline Caudron de l'Université Paris 4 Sorbonne, du laboratoire préhispanique, le CERAP. Andréa Parès également, qui est archéobotaniste à Paris 1. Guillaume Hutorel, qui était à Paris 10, qui va nous parler d'archéologie expérimentale. Chloé Bellard à l'EPHE, également à l'UMR à Auroc de l'ENS. Et Christophe Darmanjat, qui est donc économiste et anthropologue à Paris 7.
Il faut d'abord que je fasse une précision. Il y a l'archéologie d'itinéraire et l'anthropologie funéraire. Donc archéologie funéraire, c'est l'étude des vestiges à l'intérieur des sépultures. L'anthropologie funéraire est un peu plus spécifique puisqu'elle va s'intéresser à l'étude des ossements de manière très très pointue. Donc je vais parler de manière générale pour l'anthropologie physique. Au niveau des inégalités, différentes traces possiblement identifiables. Tout d'abord, au niveau des os, on peut avoir en fait des marqueurs, ce qu'on peut appeler par exemple les lignes de Harris. Ce sont des traces de stress sur les os longs.
Nous, on s'intéresse aux matériaux organiques, c'est-à-dire créés par des êtres vivants. Donc c'est principalement les animaux, les plantes ou les micro-organismes. Donc ils intègrent un cycle de décomposition plus ou moins lent, par exemple je pense aux os ou aux pollens, à la paroi des pollens, et parfois très rapide, donc pour les grains, les fruits, les bois. Moi j'étudie donc les graines, les macro-restes végétaux.
D'accord.
C'est le domaine de la carpologie.
Ouais.
Après il y a le domaine qui étudie les pollens.
Ouais.
C'est la palynologie.
Ouais.
Il étudie également les spores. Il y a également les restes de bois. Donc les bois carbonisés, ça va être la discipline anthracologique.
D'accord.
Et les bois non carbonisés, la dendrologie par exemple, la xylologie.
1, 2, 4.
Donc Alicia, tu travailles sur la céramique. Gisèle, tu travailles sur le bois.
Il
nous manque quelque chose. Il nous manque
la pierre.
Rachel, surtout, Rachel. Et la pierre aussi. Alors Rachel, tu es spécialiste de sculpture et d'architecture, mais toi aussi tu utilises du coup les traces ou les empreintes dans ton travail.
Oui, donc moi je travaille sur les traces de fixation des statues grecques sur leur base.
Oui, il y a juste quelque chose que j'ai pas très bien saisi. Tu es archéobotaniste.
Oui.
Et tu fais également de l'archéozoologie.
Non.
D'accord.
Non, par contre, effectivement.
Tu sais en quoi ça consiste au moins.
Oui, bien sûr, parce que en fait, effectivement, tu pointes le doigt sur l'interdisciplinarité, justement.
Voilà, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Les archéobotanistes, archéozoologistes travaillent ensemble en même temps? Comment ils se partagent les tâches?
Sur le même site, ça arrive. Par exemple, sur le site sur lequel je travaille, il y a eu 30 années de fouilles et 3 publications en archéozoologie, en archéo-histiologie et en malacologie, et 3 publications aussi en archéobotanique. Donc en fait, c'est du matériel qui est prélevé effectivement sur place à partir des mêmes sédiments des fois, et qui sont envoyés donc à différents laboratoires de recherche où des différents spécialistes vont étudier ces restes-là, ces vestiges-là. Alors comme tu l'as bien dit, c'est des champs de recherche, par exemple domestication, diffusion, tout ça, c'est des champs qu'on a en commun aussi avec l'archéobotanique, et donc c'est vraiment, on partage les mêmes thèmes de recherche.
Je pense que ce qui est important et ce que les gender studies donc avancent, c'est donc certes il y a cette valence différentielle des sexes dans le nombre de sociétés, etc. Mais c'est qu'il faut pas la prendre comme étant un fait. C'est voilà, une fatalité. Justement, il faut l'étudier, voir jusqu'à quel point, dans quel domaine ça va être important. C'est questionner en fait dans tous les domaines et pas prendre ça comme une généralité universelle.
Quels sont les apports des sources ethnologiques?
Par exemple, quand on est confronté à un outil ou à même un bâtiment agricole, il y a 3 choses même à comprendre. C'est sa forme. Donc là, l'archéologie va vraiment aider puisqu'on va avoir l'équipement dans son matériau, ses dimensions, son fonctionnement, c'est-à-dire la manière dont on va l'utiliser, et enfin, sa fonction, son utilité, à quelle fin on l'utilise. Et l'ethnologie va, par exemple, être très intéressant pour tout ce qui est fonctionnement, c'est-à-dire, voilà, on a une faucille de telle dimension qui va peut-être, par exemple, avoir des petites dents, et on a des exemples encore actuels de populations dans le monde qui vont utiliser ce type de faucille. Donc on peut observer et essayer de tirer des hypothèses sur la manière dont elles sont employées. Ça se rapproche également un peu de l'archéologie expérimentale.
Qu'est-ce que c'est, l'archéologie expérimentale?
L'archéologie expérimentale, c'est, on va dire tout simplement, refaire un outil ou refaire une structure, un bâtiment, et l'essayer avec un protocole scientifique qu'on va établir afin d'en tirer des conclusions. Ça a été fait dans les années 70 par des Anglais. Ils ont refait un séchoir fumoir, ils l'ont essayé de l'utiliser et ont pris tout un tas de mesures, de température, etc., pour essayer d'en tirer des conclusions. Aujourd'hui, on a aussi l'apport des nouvelles technologies et on va pouvoir, en plus de refaire le matériau en vrai, on peut aussi faire des simulations 3D pour des bâtiments, des choses comme ça.
On étudie la même chose. On étudie des sociétés alors qui, en l'occurrence, n'ont pas laissé de traces écrites. Moi, j'ai tendance à penser que, de toute façon, l'étude des sociétés est en soi un champ scientifique, que ce soit les sociétés à écriture ou les sociétés sans écriture. Et puis, les sociétés sans écriture, y a des gens qui en ont observé alors qu'elles étaient encore vivantes, ou disons pas complètement mortes. Et puis, il y a des gens qui les observent sous la forme, au travers des traces matérielles qu'elles ont laissées. Bah, il me semble que les uns ont absolument besoin des autres. Les archéologues ont besoin de l'ethnologie pour rendre un petit, pour mettre de la chair autour de tout ça, et effectivement pour pas ne se borner à faire des catalogues d'objets, parce que sinon c'est de la science extrêmement frustrante. Et les ethnologues, s'ils veulent donner un tout petit peu de profondeur temporelle à ce qu'ils étudient et pouvoir faire non seulement des photographies, mais essayer de reconstituer le film, est-ce que ça a été l'évolution sociale, bah, ils ont absolument besoin de l'archéologie, sinon ils font des spéculations.
Voilà, donc les pierres qui roulent abordent des sujets très différents, vous l'entendez, des sujets attendus et puis des sujets moins attendus, comme on a pu l'écouter avec les archéologues qui travaillent sur la cabane de Podane du film de Jacques Demy, et aussi avec l'archéologue Joël Roland, comme on va l'entendre tout de suite, autour du verre et notamment les bruits du verre archéologique.
Par le merveilleux ou par l'ombre ?
Un miroir.
En réalité, sur le chantier, on a deux types de mobilier. Ouais. On a les mobiliers qui apparaissent à l'écran et les mobiliers qui vont être associés à tout ce qui est zone technique et moment de tournage.
Oui, c'est ça.
Du coup, on a regardé énormément de scènes en boucle, ouais, pour essayer d'identifier les mobiliers qu'on avait. En disant, bah, est-ce que oui ou non ils sont dans le film, ou est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui n'est ni du décor, ni du costume, mais quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut d'abord préciser qu'on n'a jamais retrouvé la cabane, parce que quand tu te promènes dans les bois, on ne voit pas la cabane. Et c'est à partir de cet emplacement, et sur cet emplacement, qu'Olivier, avec plusieurs membres du laboratoire Trajectoire, ont commencé des prospections géophysiques et du détecteur de métaux, qui ont confirmé l'emplacement parce que dans la forêt, il y avait une grosse concentration d'éléments métalliques autour de cet emplacement supposé.
Voilà. Et ça, par contre, c'est le côté glamour. Tous les diamants qu'on a trouvés sur la zone de la cabane. On en a un plat qui peut être cousu et les autres sont des petits diamants qui sont normalement un petit système de sertissage derrière avec des petites griffes qui permettent d'être aussi probablement cousus ou collés quelque part. Mais on a du mal à déterminer d'où viennent les diamants. Il y en a quand même un petit peu beaucoup. Il y en a sur la robe, il y en a sur le beau miroir qu'elle a sur son bureau.
Il faut quand même que tu nous parles de cette perle-là.
Serait-ce le diamant de la robe ?
Voilà, c'est ça. C'est l'hypothèse, c'est que c'est un diamant qui vient de la robe. Couleur de soleil. La robe.
C'est un peu excitant en fait, hein. On a vraiment l'impression que c'est un trésor en fait.
Ah bah le moment où quelqu'un trouve un diamant, il hurle « Diamant, diamant, diamant !» et tout le monde s'arrête genre
« Un peu comme quand on trouve un biface.
C'est ça.
Je précise, ce ne sont pas des vrais diamants.
À quoi on sert nous archéologues ? Quand on est là pour expliquer les modes de vie des gens du passé, il n'y a pas de problème, notre utilité elle est simple. Quand on est là pour expliquer les difficultés de la guerre, la difficulté des tranchées, la difficulté des vies en tranchées, ça a mis du temps mais on commence à comprendre que c'est utile. Je pense qu'il faut que c'est notre travail de montrer l'utilité, de fouiller un décor de cinéma, la recherche autour de cette mémoire collective, autour d'un conte, et aussi autour des origines de l'enfance, puisque Podane, c'est quelque chose qui nous parle d'enfant et d'enfance. C'est quelque chose qui, en effet, sort un petit peu de l'archéologie, parce qu'on rentre dans une recherche qui est aussi...
beaucoup plus sociologique.
Beaucoup plus sociologique.
Un conte de fées, superficiel. Ah non, je trouve que c'est au contraire très, très mystérieux, très profond, très beaucoup moins pour les enfants même peut-être qu'on pourrait le croire.
Le paysage sonore en archéologie et l'ambiance sonore, on peut aussi l'approcher, c'est ce que je fais à travers les matériaux.
C'est ça. Toi, tu bosses sur quelle période exactement ?
Alors moi, je travaille sur la proto-histoire récente, c'est-à-dire en fait les Gaulois.
Les Gaulois, c'est fameux.
Hein, les Gaulois, voilà. On connaît le fameux tumulte gaulois, tout ça par Toutatis.
Tout à fait.
Et en fait, le verre, c'est un matériau qui apparaît un petit peu tardivement dans l'histoire humaine et l'humanité. Ouais. Et finalement, quand on approche des matériaux et le bruit que peuvent faire ces matériaux, on se rend compte que l'apparition de nouvelles matières, que ce soit le métal ou le verre, ça peut transformer complètement un paysage sonore.
C'est ça.
D'accord. Donc selon le bruit, en fait, enfin selon les matériaux d'une époque, on peut comprendre le bruit d'une époque spécifique.
Bah oui. On peut, disons, approcher le bruit et plus particulièrement le bruit de l'individu.
Ok.
Puisque la parure, c'est quelque chose qui va être porté par un individu et qui va le bruit que fait la parure, ça s'associe aussi facilement à l'individu.
Ok.
Et là, j'invite à vous pencher vers vos propres souvenirs et la façon dont vous pouvez identifier vos proches avec le bruit qu'ils font quand ils s'approchent.
Et est-ce que le bruit des hommes était différent de celui des femmes ? Est-ce que les hommes avaient aussi
du verre sur eux ? C'est une question.
Merci.
Alors, les hommes avaient aussi du verre sur eux.
D'accord.
Bien sûr. S'il y a un matériau de prestige, le prestige, c'est pour tout le monde.
Ouais.
La femme peut être un objet de prestige aussi pour l'homme dans les sociétés. On le voit très souvent. Ouais. Et est-ce que l'homme fait le même bruit que la femme ? Non. Les hommes, ils râlent tout le temps.
En 3 ans des pierres qui roulent, on a rencontré plein de chercheurs qui nous ont parlé de leur métier et qui nous ont fait entendre leur expertise. On va réentendre Sylvie Robin, conservateur au musée Carnavalet, mais aussi Alicia Espinoza, qui est doctorante à Paris 1 au laboratoire Arcam, Hélène Huyssen, qui est restauratrice en archéologie, et puis c'est tout, et c'est déjà pas mal.
C'est la 3e session des pierres qui roulent de cette année sur le thème des pratiques de l'archéologie et on est sur Radio Campus Paris 93.9 et aujourd'hui on loge au musée des arts et métiers. Alors quel rapport me direz-vous ? Bon déjà on est là pour parler de métiers et le musée regorge d'instruments scientifiques en tout genre, utilisés aussi par les archéologues. Prenons le microscope par exemple, indispensable lorsqu'ils travaillent en laboratoire. Ici, au CNAM, on peut voir leurs évolutions du microscope composé de Mani, datant du milieu du XVIIIe siècle, au microscope électronique à transmission Siemens de 1973.
Le criminel a surgi de dessous ces arbres, il y a d'excellentes empreintes de pas. Et des indices, mon cher, à ne savoir qu'en faire. Un mouchoir, un bouton...
Encore un assassin étourdi.
Ah, s'il ne commettait pas d'impair, nous ne les attraperions jamais.
Oui, donc en fait, l'archéologie, c'est bien, mais quand il y en a trop, ça pose le problème de l'encombrement des collections.
Encombrement et mise à jour continuelle.
Voilà. Je vous entendais parler tout à l'heure d'arrêter les collections, le fait que les collections soient arrêtées.
Alors en fait, il y a un moyen pour trier ces collections. L'avantage qu'on a sur un chantier de fouilles, c'est que l'inventaire est un inventaire, je dirais, libre et non juridique, c'est-à-dire que on a la possibilité de faire ce qu'on appelle un tri sélection. Donc c'est un tri qui est fait suivant des critères scientifiques, en s'appuyant sur des connaissances et des spécialistes. Et on peut très bien décider que sur une découverte de mètres cubes de tuiles romaines sur un site, on va en sélectionner certains spécimens, un échantillonnage qui permettra de faire des études ultérieures, mais qu'il n'y a pas nécessité à garder des mètres cubes et des mètres cubes de tuiles. Donc ça, ce sont des choix scientifiques qui sont faits avec des spécialistes. Et ça permet d'écrémer un petit peu et d'alléger le mobilier qui va rejoindre les réserves.
Vous regardez aussi ce qu'on appelle la section radiale, c'est-à-dire la tranche de votre tesson, donc qui est un fragment de céramique, et vous regardez l'alignement de toutes les petites inclusions minérales, des roches, des matériaux argileux, en somme, qui vous donnent une série d'indices. C'est un peu retrouver les traces, finalement, progressivement, comme une petite enquête, vous retrouvez plusieurs indices et vous dites « Ah, c'est probable que ce soit ça ou pas. »
Est-ce que parfois on a des empreintes digitales ?
Ah oui, ça c'est... J'ai trouvé ça très émouvant, effectivement, quand vous touchez la surface, il vous arrive de tomber sur un creux, et en fait, effectivement, c'est une empreinte digitale, donc effectivement, on en retrouve souvent.
Et on ne fiche pas les potiers, il n'y a pas encore un fichier empreinte digitale des potiers du Pérou.
Non, mais ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'au final, ce qu'on essaye de rechercher, c'est des signatures de potiers, effectivement, c'est retrouver ces communautés de pratique où on partage les mêmes savoir-faire, les mêmes gestes, qu'on se transmet dans le cadre notamment d'un atelier.
Vous allez où ?
On va chercher des traces.
Tiens, regarde là.
Ouais. Ouais. Là, il y en a une. On va... Attends, je vais prendre mon bouquin. Voilà.
Alors, donc...
Quelles sont les spécificités du coup en restauration pour ce genre de matériaux ?
L'essentiel, c'est la documentation et l'interprétation. Et pour ça, le conservateur-restaurateur, grâce à son expérience et aux outils d'analyse à sa disposition, peut identifier et interpréter ces restes organiques qui sont minéralisés. Mais on en retrouve aussi, comme disait Andrea, en milieu gorgé d'eau.
Oui, c'est ça.
Là, c'est encore d'autres éléments.
Donc ça, c'est comment on fait avec des bois gorgés d'eau pour les mettre dans un musée et dans une vitrine ?
Alors pour les exposer, c'est tout un processus. En fait, là, c'est une intervention assez invasive.
Ouais.
Parce que si on veut les sécher...
Ça veut dire quoi, invasive ?
Invasive, c'est-à-dire qu'on va fortement interagir avec la matière de l'objet lui-même. Parce que pour des bois gorgés d'eau, si on veut les faire sécher, on ne peut pas les laisser naturellement, sinon ils vont complètement s'effondrer, perdre leur forme et n'auront plus aucune information exploitable pour l'étude archéologique.
Ouais. Dommage.
Voilà. Pas l'objectif. Donc, on peut les imprégner en fait de résine, dans un premier temps des bains de résine qui va tapisser les parois du matériau, et ensuite on peut les lyophiliser. Donc ça, c'était inspiré des expériences en agroalimentaire, donc c'est-à-dire congélation puis sublimation.
J'avais une question. En fait, j'avais l'impression, en vous écoutant, que l'archéologie contemporaine, en fait, elle permet de pallier aux défauts d'archivage qui avaient pu exister là dans les temps passés. Là, à l'époque actuelle, avec tout ce qui est la vidéo, l'enregistrement de tout, le stockage dans le disque dur, qu'est-ce que vous pensez que l'archéologie pourra apporter dans 20, 30 ans, 40 ans par rapport à l'époque de 2016 d'aujourd'hui ?
Excellente question ! L'archéologie, ben oui, on est dans la terre, on a les mains dans l'eau, dans la terre, mais on a aussi les mains dans les archives. Et les archives, hein ?
Et on a les mains propres.
Et on a les mains propres, effectivement. Et on peut mettre des talons, nanana. Bon, et à part ça, à part les archives papier, on peut avoir aussi d'autres types d'archives. Et toi, Lola, justement, tu t'occupes ici à Radio Campus Paris des archives sonores de Radio Campus Paris. Pourquoi ?
Parce que la radio a déjà 20 ans d'existence et qu'ils sont en train de crouler sous une masse de données, je dirais.
Mmh.
Et que c'est un moyen aussi de faire l'histoire de Radio Campus en réinvestissant ses contenus et de découvrir des choses qui se sont passées il y a 5, 10...
Exactement. Et nous, on a voulu te laisser donc la parole aujourd'hui pendant ce best-of. En te donnant du temps, des moments à toi pour te plonger dans ces archives et nous plonger aussi dans ces archives de Radio Campus. Vas-y.
Ouais, je vous ai trouvé des archives qui portent sur la création sonore, qui est un truc apparemment, j'ai cru comprendre, qui est assez propre. Enfin, Radio Campus exploite pas mal la création sonore. Donc je vais vous présenter une émission de 2007 ainsi que deux projets radiophoniques qui datent de 2013 et de 2011 qui ont été créés en fait en amont, enfin extérieur à Radio Campus et qui ont été diffusés par la suite par Radio Campus. Alors, durant l'été 2007, la radio marseillaise Radio Grenouille, qui est en fait ce qu'on vient d'entendre, qui était son générique, a pris ses quartiers à Paris pour présenter une sélection de musiciens et de créateurs sonores marseillais.
faire entendre Marseille par ses environnements sonores également et défendre l'existence d'un autre rapport aux médias radio, partager ses expériences avec ses complices de Paris, donc Radio Campus Paris. Donc pendant l'été 2007, Radio Grenouille s'est investi Radio Campus Paris. Ils ont présenté ce qu'ils ont appelé des pastilles sonores, en fait, qui sont entre autoportraits d'artistes marseillais et captations sonores des entrailles urbaines. Donc Grenouille Capitale est une immersion radiophonique où se dressent ça et là des morceaux de vie, mais aussi des vues de la ville, finalement. Donc je voulais vous proposer d'écouter un extrait de Marseille, oui, par Aline Solaire, qui est une réalisatrice son. Et sa pièce a été diffusée dans l'émission du 10 juillet, 22h30, c'est le titre, de Grenouille Capitale sur Radio Campus Paris en 2007.
On écoute ça.
Marseille, oui, par
Aline Solaire. Marseille appartient à ceux qui viennent du large. Blaise Cendrars.
Oh, on n'a pas de rond. Déjà qu'on a bien passé ça à deux. Moi, histoire de boire une couche, un peu d'aspirine, tu vois un peu.
Moi, je paye la première tour.
Non, parce que j'avais pas d'orange, j'ai demandé l'aspirine.
Bon, alors c'est quand même.
Bon, alors. Ouais, on va boire une coupe parce que je suis un peu. Je traque là, je traque. Vous avez recommandé là?
Non.
Oui, oui, mais.
On commande la tournée du patron.
La même chose.
Exactement.
Pareil pour moi avec. Moi c'était 51 mais pas beaucoup d'eau s'il vous plaît. Ouais, on va voir le coup parce que je suis un peu. Je traque là, je traque.
Pasan los días, yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estoy perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Así pasan los días. Estando, quizás, quizás, quizás.
Marseille, c'est comme n'importe où ailleurs.
Reste là.
Et sa différence vaut bien celle de n'importe où ailleurs.
Is a radio performance presented by Juliette Rouen and featured in network art forms and tactical magic fairy circuits, which is a durational event including symposia, exhibition, performances, workshops, and social gatherings that will take place in Hobart, Tasmania, Australia, between the 31st of May and the 30th of June 2013 at Contemporary Art Spaces Tasmania.
Là, on vient d'entendre, juste après Radio Grenouille, le générique de Radiophonie Hunter Hair. Alors, j'ai un très
avec un très très bon accent.
Sorry pour ma English. Donc, il y a un projet radiophonique qui a eu lieu le 2 juillet 2013 et qui fut, je cite, pour reprendre la présentation du projet lui-même, un appel à penser les enjeux esthétiques des ondes créatives comme un espace fantôme occupant des ondes radio. Ce projet, pour ce projet, 20 artistes sonores venant des quatre coins du monde ont été conviés pour créer une immersion radiophonique dans laquelle fut exploré ce que nous considérons couramment d'inaudible pour le rendre audible. Et inaudible est à comprendre au sens propre comme au figuré.
D'accord.
Donc en somme, pour reprendre la problématique en fait qu'expose ce projet dans sa verbalisation, quoi, c'est comment rendre tangible ces courants d'air qui peuvent à la fois être des véhicules sans fil pour la psyché humaine. Et donc, je vais vous en donner un exemple avec la pièce sonore de Dina Bird, dont la pièce s'appelle Miss Time, qui a été créée en 2011 et diffusée dans ce projet, qui a été après diffusée en fait, au même moment, par Radio Campus Paris. Et c'est une pièce qui questionne le rapport entre l'espace et le temps, à la fois dans son sens physique, mais aussi dans son ressenti humain.
Ok.
C'est bon. I wish you a reactive listening. Radiophony. Haunted. Hell. Time is.
When you hear the signal, the time will be 11:30 and 1/4.
Time is different.
Bij de Deltaton is het 9 uur, 59 minuten, 20 seconden.
Time is running out.
Beim nächsten Ton is het 11 uur, 3 minuten en 20 seconden.
At the third stroke, it will be 9:17 and 50 seconds. Time flies. Time is wasted. Time teaches. Time is straight.
shoot. Time is up.
At the third stroke, it will be 2:00 precisely.
Time is a circle.
Ce projet a été diffusé sur 9 radios en simultané du grand monde et dans plusieurs galeries d'art contemporain de la planète. Et il est en quelque sorte la continuité du Radiophonic Creation Day, c'est-à-dire la journée de la création radiophonique créée en 2009 par l'association GEL.
Donc ça, c'est un autre projet.
Donc ça, c'est encore un autre projet. Okay. Et ces deux projets, en fait, ont été créés par le même noyau dur, pas par l'association GEL qui a juste fait le Creation Day. Mais des membres de l'association ont ensuite fait ce projet en 2013. Et donc cette journée consiste, je cite, non seulement à être un moyen de donner un aperçu de cette scène de la création radiophonique contemporaine et internationale, mais aussi de sensibiliser à cet art un public plus large que le public d'initiés qu'il engendre habituellement. Donc en plus, il y a eu une première édition en 2010 qui a été après renouvelée en 2011, plus précisément le 4 juillet 2011, et qui a eu lieu de minuit à minuit à Montreuil, au Jardin d'Alice, et qui a été, donc en fait pendant 24 heures, il y a eu 24 heures de créations sonores qui ont été diffusées en flux continu sur plus de 16 radios FM et environ 8 web radios.
C'est dommage qu'on n'ait pas 24 heures devant nous.
Ah, moi, j'aurais trop aimé.
Ça aurait été une bonne idée.
Écoutez, les 24 heures, bon, ça va être un peu dur. Donc, sans durée ni thème imposé, parce qu'il y a eu un jury, mais il n'y a pas eu de durée ni de thème imposé. Donc
chacun
faisait ce qu'il voulait, quoi.
Ça sert à l'art contemporain.
Ça a rassemblé au total plus d'une centaine d'artistes de 23 pays différents qui ont participé à cette journée de la création. Mais en plus, au-delà de rendre la création sonore accessible par ce corpus, il y avait aussi la volonté de faire une lutte, à savoir une lutte contre le passage à la radio numérique en Europe. Et passage qui, pour l'association GEL, met en péril en fait un bon nombre de radios associatives et de radios locales de catégorie A et B, alors que c'est au sein de ces initiatives volontaires que naissent ces étincelles de création sonore inventées pour la radio que l'on nomme création radiophonique.
On veut des extraits.
Alors, comme on n'a pas 24 heures, je vous ai quand même choisi 3 extraits qui sont, moi, que j'aime beaucoup, mais qui sont très drôles, qui sont assez... bizarre. Et on enchaîne tout de suite.
La minute de silence de
Pierre Henry.
Système de prendre son tu qui a la plus bégée et la pente que son seul et tout un poupilouette qui existe de disque unique mais dalle qui fait suivre avec les expressions orchestres sensibles et que
Bonjour. Allô?
Allô? Je vous rappelle que tout a commencé quand ma mère m'a déguisé en lapin un mardi gras. Le lapin d'Alice. Toujours en retard.
Ah, mais t'avais quel âge?
Bah, je sais pas, je devais avoir 6-7 ans.
Mais ça t'a plu ou ça t'a traumatisé?
ça m'a traumatisé entre guillemets, disons que ça a déclenché probablement toute la suite des événements par rapport au lapin. Et petite récurrence du lapin dans ma vie en fait quand j'étais jeune. Voilà. Je pense qu'on est la génération du lapin. Pareil, en livre, je disais Jojo Lapin. Le lapin rusé. Ah, c'était fantastique. J'ai lu beaucoup de fois Alice au pays des merveilles sous différentes formes. Roger Rabbit, qui m'a beaucoup marqué dans mon existence. On a vu notre petit Quick, là. Le truc du... qui a remplacé Gros Quick sur le Nestlé. Aussi. C'est un lapin.
Ouais, mais c'est un lapin bizarre, quand même, non?
Ouais, c'est un peu un lapin bizarre. Mais ils sont tous un peu bizarres, les lapins, quand même. Mine de rien.
Pourquoi?
J'ai déjà vu un lapin qui parle et qui fait des blagues aux renards. Ou des lapins qui font des enquêtes policières et qui sortent avec des super nanas.
Ah, c'est dans quoi, ça?
C'est dans Roger Rabbit. Ah bah oui. Ah oui, il y a eu le lapin de Donnie Darko. Enfin, le masque de lapin qui est juste absolument affreux. Je crois que ça a été ça, le déclencheur de la paranoïa du lapin. Ça m'a replongé dans un passé un peu étrange sur le lapin.
Je m'appelle Bernard Grancher. Je cherche un emploi.
Je m'appelle Bernard Grancher. J'ai une formation.
Je m'appelle Bernard Grancher. J'ai travaillé 3 ans au centre.
Je m'appelle Bernard Grancher. Je cherche un emploi.
Je m'appelle Bernard Grancher. Mes loisirs sont le kung-fu et la course en karting.
Je m'appelle Bernard Grancher. Mes loisirs sont le kung-fu et la course en karting.
Je ne sais pas comment je m'appelle. Je ne sais pas comment je m'appelle.
C'est n'importe quoi. C'est gros fou rire. En studio, merci Lola. Qu'est-ce que c'était? What is it?
Alors le premier, c'était La mine de silence de Pierre-Henri par Jean-Philippe Rodou.
Ah oui, il s'appelle Pierre-Henri. Lui aussi.
Ensuite, c'était La paranoïa lapinesque par Myriam Préau. Et enfin, on a fini avec Je m'appelle par Bernard Grancher. Mais je tiens à dire que c'est quand même chouette. Enfin, on en rigole, mais moi, j'aime quand même beaucoup.
C'était très drôle, très sympa. Une belle petite... un bon trésor, n'est-ce pas, archéologique aujourd'hui.
Ouais, bah, finalement, c'est...
Bah, avec plaisir.
Ce travail des archives.
Carrément. Avec plaisir pour la prochaine émission. On en veut plus, du coup. Ça nous donne envie. Et bah, justement, ouais, nous, au Pierre qui roule, on a aussi l'occasion de faire des trucs un peu what the fuck qui sortent de l'habitude. Donc, on va lancer un autre petit PAD avec des types de choses qu'on peut faire aussi dans les Pierres qui roulent.
Bah, c'est du théâtre. Tu reprends la diction de la bouche.
Nous sommes donc en direct toujours depuis les studios de Latin Corner TV. Notre envoyé spécial Michel est sur le point de voir démarrer les combats de gladiateurs.
Ces combats sont très attendus, Enora.
Ah, ça c'est sûr.
On attend très impatiemment l'arrivée de Tatus Tillus qui, après une fabuleuse saison, pourrait aujourd'hui encore remporter une belle victoire contre Minus Tullus. Pas très en forme, lui, par contre.
Et oui, c'est pour ça que le public est en train de s'agiter. Le public, donc, qui s'impatiente sur les gradins des arènes de Lutèce. Allons prendre donc la température sur place. Allons à la rencontre de Michel. Michel, vous m'entendez? Nous sommes donc en duplex. Où en êtes-vous?
Bonjour Enora, Elia. Me voici sur les arènes de Lutèce accompagné de Yuni, une citoyenne romaine. Nous allons assister à un combat de gladiateurs. Alors Yuni, comment pénétrons-nous dans les arènes de Lutèce?
Malheureusement, je ne sais pas. Peux-tu m'éclairer?
Commençons par le commencement. L'entrée se situe dans le vomitorium que nous traversons.
Où sont nos places?
Sur la Kawea, l'ensemble des rangées de gradins. Es-tu bien installé?
Oui, mais ce n'est pas très confortable. Et je ne vois pas très bien. Pouvons-nous nous rapprocher? Là-bas, à côté des gens distingués?
Non, surtout pas. Si tu regardes bien, des noms sont inscrits gravés sur la pierre, appartenant à des personnes d'un rang social plus élevé, sans doute des patriciens.
Oui, je les vois.
Le combat va commencer.
On va faire une petite pause chronique grâce à Émile qui va nous parler d'un sujet que nous allons découvrir.
Ah ben ça, j'espère. Sinon, je ne parlerai pas.
Australopithecus règne en maître sur le grand rift éthiopien depuis des millions d'années. Et c'est son challenger, Habilis, qui fait son entrée. Mesdames et messieurs, c'est à un monstre sacré qu'Habilis va s'opposer. Australopithecus conquérant de la bipédie du haut de son mètre 35. Capacité crânienne 550 cm3. Extension géographique à tout le continent africain. Va remettre son titre en jeu face à Homo Habilis, 700 000 ans d'expérience à peine. 40 kg, 1m50, 800 cm3 de jus de crâne. Oui, 800 cm3. Redoutable virtuose du silex et du galet aménagé. Oh, le combat s'annonce rude. Mais quoi? Un nouvel homo fait son entrée sur le rift. Plus grand, plus beau, plus fort, il se tient incroyablement droit et porte une torche dans sa main. On peut lire son nom sur son short en poil de roc. Homo erectus!
S'intéresser à la médiation des recherches archéologiques auprès du grand public, comme nous le faisons aujourd'hui, c'est nécessairement poser la question de son utilité pour notre société. Est-ce que les connaissances archéologiques ne sont que la cerise sur le gâteau de notre savoir? Ou bien peuvent-elles jouer au contraire un rôle plus fondamental et donc plus intéressant? Peuvent-elles avoir une utilité plus concrète pour le citoyen? Tenez, prenons un exemple. Quelle utilité pourrait-il y avoir à comparer le déroulement d'une même activité à plusieurs siècles d'intervalle? Eh bien, voyons cela justement. Et mettons en parallèle le déroulé, plus ou moins classique, d'une fin de journée d'automne de quelqu'un qui travaille en ville, en France, en 2014. C'est moi qui jouerai ce rôle. Avec celui de quelqu'un qui aurait vécu à la préhistoire, par exemple, au paléolithique supérieur, c'est-à-dire il y a environ 12 000 années. Cette personne, nous la nommerons Monsieur Cro-Magnon. Et nous mettrons également ce parcours en parallèle avec celui de quelqu'un qui aurait vécu à Paris ou dans sa banlieue à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire au 15e siècle après Jésus-Christ. Et cette personne, nous la nommerons Guillemette, un prénom qui était très répandu à cette époque. Alors comparons mes gestes quotidiens avec ceux de Cro-Magnon et ceux de Guillemette pour mieux mesurer les différences dans nos pratiques. Allons-y. On est en début de soirée, le 20 novembre 2014. J'ai terminé ma journée de travail et je retourne chez moi à pied. À pied parce que les transports en commun sont bondés et que c'est pas la peine de prendre la voiture parce que les rues sont toutes bouchonnées. Guillemette est tout à fait d'accord avec moi parce que déjà au 15e siècle, la circulation à Paris et dans sa banlieue était très compliquée. Il y avait déjà plein de bouchons. Il fait nuit, on est en automne. L'automne, ça existe déjà au Moyen-Âge, ça existe déjà au Paléolithique supérieur. Et il pleut, c'est des choses qui arrivent en automne. Mais ce soir, il pleut vraiment très fort. Je marche sur un trottoir qui est recouvert de goudron. Ça fait une belle chaussée, sans aspérité. C'est propre parce que c'est facile à nettoyer puisque l'eau glisse dessus. Et oui, l'eau glisse sur le goudron. Mais ça peut être un problème justement, comme ce soir d'ailleurs, parce qu'il pleut tellement que j'ai l'impression de marcher dans une rivière quand je marche sur le trottoir, parce que le sol n'absorbe rien de ce qui tombe du ciel. Mes chaussures, que j'ai achetées pas très cher dans un magasin qui importe des produits qui sont réalisés quelque part en Chine, commencent à prendre l'eau. C'est pas très agréable. Guillemette, elle, n'est pas confrontée au même problème au XVe siècle. Les trottoirs ne sont pas goudronnés, mais quelques rues sont pavées. Ils sont pavés de blocs de grès d'une bonne dizaine de centimètres de côté qui sont posés dans une couche de sable qui en assure le maintien. On a beau les refaire fréquemment, ces pavages, les charrettes qui passent en continu dans la rue ont une fâcheuse tendance à déchausser ces pavés. Alors Guillemette doit bien faire attention à l'endroit où elle pose son pied quand elle marche et elle ne veut pas trébucher contre l'un de ces pavés, justement. Guillemette, elle n'a pas les pieds dans l'eau, car le sable qui fait le liant des pavés absorbe en grande partie l'eau de la pluie. Les chaussures que porte Guillemette ne viennent pas de Chine, elle les a achetées à Saint-Denis, là d'où est originaire sa famille. Le cuir de ses chaussures a été tanné sur les bords du Crou. Les archéologues du XXIe siècle fouillent d'ailleurs en ce moment, depuis quelques années, la tannerie où était transformée la peau de l'animal. Puis les pièces ont été assemblées à Saint-Denis, dans un atelier qui se trouve en ville, parce qu'il y avait beaucoup d'artisanat en ville au XVe siècle. Bon, revenons-en à nos moutons. Il pleut, j'ai les pieds bien humides et je suis sur le chemin de ma maison. Et je me mets à penser à mon placard dans ma cuisine qui, d'après mes souvenirs, n'est pas très rempli. Faudrait peut-être que j'aille faire quelques courses si je veux manger quelque chose ce soir et demain matin. Monsieur Cro-Magnon, lui, au paléolithique supérieur, il aurait été plus prévoyant que moi. Il n'aurait pas attendu le soir pour se mettre en quête de nourriture. Ses courses, lui, il passe une très grande partie de sa journée à les préparer. Il faut d'abord qu'il se construise une arme pour chasser. Son arme favorite, c'est la sagaie. Il faut qu'il trouve un gisement de silex, qu'il en extrait un nucléus qui lui paraît être de bonne qualité. Il le débite en lamelles, il faut qu'il choisisse un éclat qu'il doit retravailler, qu'il doit emmancher sur du bois de renne, et il colle le tout avec du mastic végétal et des ligaments. Il faut maintenant qu'il parte en quête de gibier, qu'il retrouve le troupeau qu'il suit dans lequel il puise depuis quelques mois. Qu'ils s'en rapprochent, ils lancent une sagaie mais ratent sa cible. Le troupeau prend peur et s'enfuit. Alors il leur court après, il décoche une seconde sagaie qui touche, par chance, un animal. Avec d'autres hommes, il s'approche de la bête agonisante, l'achève et la démembre sur place. Parce que l'animal serait beaucoup trop lourd à ramener au camp. Sacré boulot, n'est-ce pas? Il doit la savourer, sa cuisse de renne, à mon avis. Ça demande légèrement plus d'implication que pour moi, dans mon supermarché, que de tendre le bras et attraper la nourriture qui me fait envie ou que je peux m'offrir. Guillemette, elle, au XVe siècle, n'a pas besoin, comme M. Cro-Magnon, de se préoccuper beaucoup en avance de sa nourriture. Elle peut se rendre dans un marché, dans la journée, aux Halles, par exemple, et acheter ses provisions. Par contre, si elle venait d'un peu plus loin que la banlieue parisienne, elle aurait dû faire un petit passage chez un changeur pour changer sa monnaie contre une monnaie valable à Paris. C'est-à-dire, en bref, elle aurait eu des réflexes que moi, je n'ai pas, mais moi, j'ai des réflexes qu'elle n'aurait pas eu. Par exemple, quand je suis dans un supermarché, je regarde la date de péremption sur l'emballage. Bon, j'ai maintenant tout ce qu'il faut pour me ranger, je rentre chez moi. Je tourne la clé dans ma serrure, tout comme l'aurait fait Guillemette. Par contre, M. Cro-Magnon n'aurait pas tourné la clé dans sa serrure pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de serrure au paléolithique supérieur. Il fait nuit dehors et donc très sombre chez moi. Il me faut de la lumière si je ne veux pas trébucher dans le couloir. Arrivé à son camp, pour avoir de la lumière, M. Cro-Magnon doit faire du feu. Pour cela, il a plusieurs possibilités. Il peut agir par percussion en frappant un silex contre de la marcassite ou par friction en frottant un morceau de bois contre un autre très rapidement à l'aide d'un archer. Guillemette, elle, au XVe siècle, utilise un briquet, c'est-à-dire une lamelle de fer qu'elle frotte contre le tranchant d'un silex et allume ainsi sa chandelle ou sa lampe à huile, qui est un petit peu moins onéreuse. Si nous regarderions avec circonspection M. Cro-Magnon et Mme Guillemette actionner leur archer ou leur briquet pour obtenir du feu et donc de la lumière dans notre couloir, comment pensez-vous qu'ils me regarderaient, moi, qui, pour avoir de la lumière dans mon couloir, déploie le bras, je plaque ma main contre le mur, je le tâte, jusqu'à mettre la main sur une petite protubérance en plastique que nous nommons interrupteur? Qui est l'individu le plus anormal d'entre nous trois? Eh oui. Parce que, au-delà de savoir comment les gens s'y prenaient pour réaliser telle ou telle activité, ce que la médiation en archéologie nous permet de comprendre, c'est tout simplement que l'on faisait différemment autrefois. Il ne s'agit pas de dire que c'était mieux ou moins bien, mais tout simplement de prendre du recul sur nos gestes les plus quotidiens et les plus banals. Saint-Exupéry a écrit « Étranger, si tu diffères de moi, loin de me léser, au contraire, tu m'enrichis ». Eh bien, connaître les pratiques de ces étrangers que sont nos ancêtres nous permettent de nous enrichir, de questionner notre quotidien, de s'en étonner, de bouleverser nos certitudes, de comprendre que si l'on a fait différemment, c'est que l'on fera probablement différemment dans quelques temps. Alors pourquoi ne pas anticiper et travailler à apporter des modifications à nos pratiques? C'est en cela, à mon avis, que je pense que la médiation en archéologie peut être utile aux citoyens.
Une belle chronique qui était proposée par Léa lors d'une émission il y a 2 ans. Sa première chronique, si je ne me trompe pas. On a entendu aussi des extraits donc, d'une chronique faite par Émile Gaillosso qui présente Les Voix du Crépuscule, qui était venu nous faire un petit coucou dans une émission. Et puis une autre chronique qu'on avait faite avec les étudiants de 3e du collège Gustave Flaubert l'année dernière à Cluny, la Sorbonne. Donc là, je passe la main à Manon, qui va nous faire, pour le coup, une chronique, une de ses toutes premières chroniques aussi. Originale, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans original. Le thème original. Je te laisse la parole.
Les statues de l'île de Pâques, les pyramides d'Égypte, les lignes de Nazca. Autant de sites qui ont pour mérite de rester un mystère pour les archéologues. Mais comment expliquer l'acquisition d'un tel niveau de technicité à une époque antique? Et si l'explication ne se trouvait pas sur Terre? Ce soir, nous allons aborder la théorie des anciens astronautes qui explique que l'écriture, l'architecture, l'agriculture, les mathématiques et l'astronomie, ainsi que la médecine, ne viennent pas de l'homme lui-même. Les civilisations anciennes auraient été en contact avec des visiteurs technologiquement plus avancés venus d'ailleurs. Tels des astronautes d'un autre univers, ils seraient venus apporter tout ce savoir sur la Terre avant de repartir. En survolant le désert péruvien, il est notamment possible d'observer des dessins géants gravés dans les sols ou les montagnes qui couvrent une surface de 450 km et qui représentent des hommes, des animaux ou des milliers de figures géométriques. Ce sont les lignes de Nazca. Ces géoglyphes ne peuvent être observés que depuis le ciel et suscitent encore aujourd'hui la curiosité des scientifiques, des historiens et des archéologues. Qui les a tracés et dans quel objectif ? Selon la théorie des anciens astronautes, ces lignes seraient une piste d'atterrissage pour les extraterrestres ou bien un message que les locaux auraient envoyé à l'époque. La théorie des anciens astronautes va même jusqu'à expliquer le principe de croyance en des dieux. Pour cette communauté que l'on appelle néo-évéméristes, ces visiteurs extraterrestres seraient devenus au fil du temps ces êtres supranaturels des croyances mythologiques. Jean Sandy, auteur et traducteur français ésotérique du XXe siècle, apporte notamment à ce propos une réinterprétation de la Bible. En relisant l'Ancien Testament dans sa version hébraïque d'origine, l'auteur donne une nouvelle interprétation du terme « Elohim ». Ce mot qui signifie « Dieu » dans les traductions classiques signifierait selon lui « ceux qui viennent des cieux ». Pour lui,
La Bible est un texte historique qui retrace la colonisation de la terre par ses anges à l'époque adamique et qui ont quitté la terre, après le déluge. Pour Sandy, il faudrait développer les recherches sur la Lune où il est possible d'observer des traces de ses cosmonautes. Ici, sur la Lune, se trouverait la clé de la Bible. Sandy aurait notamment inspiré le mouvement raélien qui s'appuie sur cette interprétation de la Bible. C'est Elohim, ses anges, auraient créé, selon les Raéliens, la vie sur terre, ainsi que le christianisme, le judaïsme et l'islam. Après, il est important de préciser que ce mouvement reste sectaire et se base notamment sur les techniques scientifiques modernes pour promouvoir l'idée selon laquelle il serait possible d'accéder à l'immortalité en pratiquant un transfert de la conscience sur des clones. Mais cette théorie des premiers astronautes n'est pas vraiment considérée par la communauté scientifique. Les archéologues ont donné des explications plus rationnelles à certains sites. Comme en 1968, la Société Géographique Nationale, après avoir déterminé une carte du ciel il y a 2000 ans, a constaté que certaines lignes de Nazca étaient à l'époque positionnées en direction du Soleil, de la Lune et de certaines étoiles. Serait-ce donc un calendrier astronomique représentant des divinités de la mythologie de la population de Nazca ? Certains scientifiques postulent même pour la possibilité que ces populations antiques aient une technologie aéronautique qui leur aurait permis de construire ces lignes. Pourtant, si la théorie des premiers astronautes n'a pas été totalement décrédibilisée aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'appuie sur des questionnements très difficiles à résoudre. Est-ce que les divinités ont été inventées par l'imagination des hommes ou sont-elles inspirées d'une rencontre avec des êtres venus du ciel ? Comment expliquer le niveau de technicité de ces populations antiques ? Est-ce l'intervention d'extraterrestres qui a permis à l'homme d'atteindre cette connaissance ? Ou est-ce qu'on passe tout simplement à côté de sites qui nous permettraient de comprendre comment ces hommes ont construit les pyramides d'Égypte et dressé les statues de l'île de Pâques ?
Les abîmes de l'archéologie et la science-fiction. Merci beaucoup pour cette chronique un peu chelou. C'était sympa. On va s'écouter un dernier PAD sur lequel on va probablement se quitter parce qu'il est un peu long, mais je le mettrai en podcast sur le site dès ce soir, qui nous montre à quel point l'archéologie est aussi un regard sur le passé, mais aussi sur nos sociétés actuelles. On écoute ça tout de suite.
À Paris.
Ce matin, je me suis levée dans mon BZ que j'ai pris la peine de refermer, puis j'ai pris ma douche, chauffée par un ballon d'eau chaude, j'ai mis en marche un podcast que j'avais oublié d'écouter depuis quelques jours sur mon smartphone, je me suis habillée en coton, en laine et en polyester pour affronter le froid, j'ai grignoté une tartine de pain bio, je me suis remise un peu de blush en poudre et je suis partie de chez moi en fermant la clé à double tour. Mon quotidien n'est certes pas intéressant pour vous, chers auditeurs, mais pour les archéologues de demain, il signifie quoi ? Quelles traces resteront de cette matinée si ce n'est un vague souvenir ? Et comment son étude permet de comprendre un mode de vie socioculturel, l'usage de techniques propres à mon temps, une adaptation journalière à un environnement spécifique ?
Mon but, c'est d'élargir notre perception de l'humanité, d'où nous venons, où nous allons, les soubresauts et les péripéties, les périls et les promesses, peut-être même trouver une réponse à cette éternelle question. Pourquoi ?
Que dire des hommes dans tout ça ? Est-ce qu'eux aussi ont leur rôle à jouer justement dans l'observation des genres ?
Ah ben, tout à fait, et même, je pense que c'est même peut-être même plus compliqué que pour les femmes, parce que justement, et donc toujours pour l'âge du fer, il y a quand même ce statut du guerrier, là aussi qu'on croit intemporel et acquis, qui montre en fait des variations extrêmement importantes. Tous les hommes n'étaient pas guerriers non plus. Donc là aussi, il y a une identité masculine comme une identité féminine archéologique qui est extrêmement diverse en fait.
Il y a aussi peut-être une dernière nuance que j'ai pu retrouver dans vos travaux à tous les deux, c'est celle qui dit aussi que le mobilier qui est dans la tombe du défunt, il correspond pas forcément seulement à l'identité du défunt, mais encore et surtout à des projections des vivants qui l'ont enterré. Chloé.
C'est fondamental et c'est en ça que la notion de genre est importante. On part du principe simple, ce sont les vivants qui enterrent le défunt. Donc nécessairement, on ne va pas retrouver son identité propre. On a accès en fait à ce que le défunt représentait pour les vivants, et donc on a accès à l'idéologie funéraire des populations, et non pas au rôle et aux positions sociales réelles des individus dans les sociétés.
dans des pays comme les vôtres, on va dire, si je peux dire comme ça, Sophie Cluzan, des pays en guerre, d'autres questions, par exemple celle des pillages, et puis des destructions donc de l'archéologie. Est-ce que cette situation-là, des vivants aujourd'hui, joue un rôle sur la conservation de l'archéologie ? La situation politique
actuelle. La situation politique sur la conservation de l'archéologie, oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez tous vu, j'imagine, ces images de destruction de par le monde en général, et en ce moment, bien sûr, dans les régions que nous parcourons plus particulièrement, et notamment, effectivement, en Syrie et à la bordure, à la frontière avec l'Irak. Oui, bien sûr, ces conditions politiques jouent un rôle sur la conservation, ça va sans dire. Des destructions parfois violentes, pour des raisons idéologiques extrêmes que vous connaissez. Des destructions d'objets, des destructions de collections, mais aussi des destructions de sites archéologiques. Et je dirais que ça, c'est quelque chose qui est l'autre volet. L'élément important sur lequel on accroche la compréhension des collections archéologiques, eh bien c'est le site, c'est le contexte dont elles sont issues, qui est indispensable pour comprendre les pièces archéologiques que nous conservons ensuite dans les musées et sur lesquelles nous pouvons fonder des discours propres à intéresser le public et à enseigner ou à transmettre une histoire. Et ce contexte, quand il est détruit avant d'avoir été étudié, c'est-à-dire quand un site est pillé, ravagé, plus que la perte éventuelle d'objets, qui pourraient être de beaux objets ou porteurs même d'une histoire, ce qui est à déplorer, c'est la perte de l'histoire, car un site archéologique qui est fouillé au bulldozer pour découvrir des objets, eh bien c'est un livre d'histoire unique au monde qui ne sera jamais lu. Et qui est disparu à jamais, qui a brûlé. Donc oui, bien sûr que ces situations politiques sont dramatiques, à la fois pour les collections, à la fois bien sûr pour les objets qui restaient à découvrir, mais plus encore pour l'histoire qui restait à écrire.
Je voudrais rajouter qu'il n'y a pas que dans ces pays du Proche-Orient qu'il y a des destructions. Il faut quand même rappeler qu'à Paris, il y a toute une période dans les années 60 où la construction dans le centre de Paris a été l'occasion de nombreuses destructions archéologiques. Et là aussi, c'est une documentation perdue à jamais. Donc on peut aussi trouver ces destructions massives très près de chez nous. Je pensais surtout au chantier des Halles qui a été... menée de manière assez empirique et rapide. Et c'est vrai qu'on a du mobilier, mais ce mobilier n'est pas directement lié avec une documentation. Et donc, quelque part, il est un peu perdu pour la science.
La fouille et la découverte de l'objet, ce n'est que le début. Mmh. Et on n'est plus aujourd'hui du tout dans une archéologie où on sort l'objet de terre pour le mettre dans le musée, ce qui était le cas au tout début ici au MAN. Non, on est là pour faire parler les objets, pour qu'ils nous racontent quelque chose, qu'ils nous racontent une histoire sur les sociétés du passé, qu'ils nous racontent la place qu'ils avaient dans ces sociétés, comment ils ont été produits, par qui, comment, et aussi tout simplement comment ils ont été consommés, qui les a utilisés, portés, jetés aussi, et comment et pourquoi. Et c'est tout ça le travail.
Que ce ne sont pas non plus que des objets beaux à placer dans des vitrines.
Exactement.
Et qu'il y a un discours derrière.
Moi, je travaille sur des beaux objets, oui. Des objets qui ont été considérés comme des beaux objets pendant très longtemps et qui se contentaient d'être des beaux objets. Maintenant, on arrive à faire parler ces objets, à leur faire dire que derrière, il y a une société qui s'est organisée pour les produire. Et c'est un petit peu particulier puisque là, on est vraiment sur une société qui s'organise pour produire uniquement des objets de parure avec un matériau très rare et des artisans extrêmement spécialisés. Donc c'est vraiment quelque chose que nous a appris l'expérimentation et quelque chose qu'on essaye de partager avec le public aussi, c'est que le travail de l'archéologue, le travail sur les traces laissées par les hommes, ça nous permet de réfléchir sur les sociétés du passé et aussi finalement sur nos propres productions et sur nos propres sociétés.
Contrairement peut-être à d'autres collections, la collection archéologique peut mettre en exergue, mettre en valeur des objets qui sont extrêmement fragmentaires, qui sont parfois extrêmement modestes d'apparence, mais qui sont primordiaux pour la compréhension d'un fait historique ou d'un fait parfois même universel. Je suis toujours très émue de voir à quel point les objets parfois les plus modestes sont ceux qui sont les plus importants pour le monde. Je pense aux premiers alphabets, par exemple, que l'on trouve sur de très modestes petites tablettes d'argile, même pas cuites et minuscules, qui peuvent disparaître et s'évanouir en quelques secondes, mais qui représentent et qui sont les témoignages, les seuls que l'on possède, des témoignages d'avancées majeures de l'humanité. Donc je crois que la collection archéologique a ceci de très particulier aussi, c'est qu'elle donne à voir à certains moments, et nous en faisons le choix avec... beaucoup de plaisir et d'émotion, encore une fois. Elle donne à voir des objets parfois extrêmement modestes, mais qui conduisent très très loin, et qui ne conduisent pas vers l'extase esthétique ou vers le partage d'un plaisir, d'une découverte esthétique, comme dans d'autres collections, qui conduisent vers la connaissance, l'émerveillement, et qui conduisent vers nous-mêmes, vers ce que nous sommes. Les collections archéologiques témoignent de faits culturels et de faits de civilisation qui ont toujours cours dans ces pays à l'heure actuelle. Un exemple par les métiers d'art. Quand vous allez dans un de ces pays et que vous allez parcourir un musée, que vous découvrez des objets du 3e millénaire avant notre ère, avec des techniques remarquables d'incrustation de la nacre, je prends cet exemple, eh bien, il suffit que vous sortiez du musée, que vous alliez à quelques encablures de là, à pied, dans le souk, et vous trouvez des artisans qui pratiquent toujours ces mêmes techniques. Donc il y a une continuité très forte dans tous ces pays entre le passé, représenté par toutes ces collections archéologiques, et ce qu'ils sont devenus au présent. On peut aussi évoquer la manière dont les collections archéologiques peuvent témoigner de faits majeurs de ces sociétés, de la constitution de ces sociétés, ce qui en faisait le ciment et qui est mis à mal, notamment, par exemple, la coexistence des religions, des trois religions du livre, qui est une donnée constante de ces pays, hein, et qui vont beaucoup à nous apprendre en réalité sur ce phénomène. Collections archéologiques dans ces pays témoignent parfaitement de cette coexistence millénaire de ces religions. Donc oui, ces collections peuvent avoir vraiment un rôle à jouer pour la reconstruction.
Devant cette finitude humaine que nous sommes, le fait de vouloir conserver tout ce qui est apporté par l'archéologie est un moyen de nous faire comprendre que nous ne sommes pas tout seuls et que nous avons un passé et que ce passé est respectable. Et ça peut aider aussi un certain nombre d'entre nous à comprendre et à respecter l'humain, quel qu'il soit et où qu'il soit.
Et à construire l'avenir aussi.